Cours Kephas, épisode 42, le 7e et le 10e commandement.
Voilà, on va reprendre notre catéchisme. Commençons. Eh bien, par achever ce que nous avions dit la dernière fois sur la question du vol, parce qu'il y a une question que je n'ai pas abordée par oubli, et qui est assez moderne, puisqu'elle concerne ce qui est relatif au respect de la propriété privée. À l'ère du numérique, on a beaucoup de possibilités aujourd'hui d'avoir en quelques clics, gratuitement, des œuvres qui sont pourtant officiellement payantes, et on peut, par des moyens que je ne préciserai pas, télécharger bon nombre de choses, tout à fait bien par ailleurs, mais qui sont censées être payantes, et on peut les avoir gratuitement, que ce soit des films, que ce soit des logiciels, des applications, des programmes, et j'en passe. Puis il y a la question du téléchargement donc illégal ou légal, mais surtout illégal, en général, quand c'est légal. Dans ce domaine-là, c'est à peu près moral. Enfin, restant sauf le contenu, s'il est bien sûr moral. En revanche, il y a aussi la question relative à tout ce qui est copie de choses acquises légitimement à la base. On en fait profiter tellement de monde qu'on peut se demander s'il n'y a pas un préjudice pour la personne qui a produit cette œuvre. Puis la question se pose aussi pour toutes les œuvres dont les auteurs sont morts, en fait, ça, et qui sont parfois protégées quand même par un empêchement, un copyright ou que sais-je, une licence, empêchant qu'on puisse en profiter alors que la personne elle est morte, donc ça ne va pas elle la léser directement, peut-être ses héritiers. Il y a des œuvres aussi qui n'intéressent plus personne et on ne peut même pas lui les acheter. Elles ne sont plus produites ou elles ne sont plus diffusées de façon officielle. Il y a même parfois la question de certains pays de la censure. Voilà. Sauf qu'ils sont censurés, qu'ils ne le devraient pas. Bon. Alors vous voyez, la question est très vaste et je ne prétends pas y répondre de façon définitive, mais donner quelques lignes de réflexion et quand même quelques indications prudentielles pour éviter peut-être les deux extrêmes qui consisteraient à dire tout téléchargement n'est pas du vol ou tout téléchargement est gravement immoral et forcément du vol. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre la bonne réponse. Parce que les cas sont bien différents et voyez bien toute la difficulté hein, à répondre tout l'un ou tout l'autre, c'est que d'un certain côté, quand on va copier une œuvre, on va rien voler puisqu'on n'abîme rien et on ne prive pas ni l'auteur ni ceux qui ont déjà ces œuvres de l'œuvre qu'ils ont produite ou de l'œuvre dont ils profitent. Vous voyez, un vol, quand on prend quelque chose dans un magasin, non seulement on crée un préjudice pour ceux qui les ont achetés pour les revendre, mais aussi indirectement pour ceux qui voudraient trouver dans ce magasin ces produits qu'ils ne trouveront plus. Là, il n'y a pas ce cas-là lorsqu'on est sur de la propriété de programmes ou de musique ou de films ou d'applications. Le simple fait de copier, en ce sens, ne peut pas être purement et simplement assimilé à un vol, en tout cas un vol comme un autre. Et en même temps, on comprend qu'il peut y avoir une injustice parce que tout ouvrier, comme le dit l'Écriture, mérite son salaire. Et l'ouvrier qui a passé des heures à coproduire un film, un spectacle ou un concert, il a bien droit à une rétribution. Mais c'est vrai que oui, c'est assez récent, cette notion de droit de propriété intellectuelle. De façon générale, hein, les artistes jusque la Renaissance, en gros, ne signaient pas leurs œuvres, ou très discrètement. En tout cas, ils ne prétendaient pas avoir un droit absolu à ne pas être copié, ou à ne pas être emprunté ou diffusé. C'est vraiment à la Renaissance, à la fin du XVIIIe, qu'on trouve vraiment, par la Convention de Berne de 1886, cette idée d'une propriété intellectuelle qui, depuis, est rentrée vraiment dans les mœurs, bien avant le développement de l'ère numérique qui concerne ces 30 dernières années. Dans beaucoup de pays, comme dans le nôtre, hein, le principe du droit d'auteur stipule que la loi attribue à toute personne un droit de propriété incorporelle sur les œuvres de l'esprit qu'elle crée. Attention, ce droit ne porte pas sur les idées. Vous pouvez bien vous inspirer d'un livre pour écrire un autre livre, et heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement il y aurait peu de livres qui sortiraient, mais sur leur expression concrète. Le droit ne porte pas sur l'idée, elle porte sur l'expression concrète de cette idée, qu'elle soit intellectuelle ou artistique. Et donc ce droit, en fait, il comprend le droit moral, respect de l'intégrité de l'œuvre et de la réputation de son auteur, et puis le droit patrimonial, qui est l'exploitation commerciale de l'œuvre. Il y a un double droit, en fait, qui est protégé. Et ainsi, la reproduction, la copie, la représentation eh bien, sont encadrés par ce droit de façon à veiller à ce que l'auteur ne soit pas injustement lésé. Alors en principe, vous voyez, les œuvres de l'esprit, les œuvres proprement intellectuelles et même artistiques, pour peu qu'elles soient belles et qu'elles élèvent réellement l'âme, par leur diffusion, elles ne s'appauvrissent pas, bien au contraire. Elles s'enrichissent, elles enrichissent son auteur d'une célébrité, puis elles enrichissent tous ceux qui voient cette œuvre ou qui en profitent, sans apporter aucun préjudice à cette œuvre. Bien au contraire. Hein. Qu'il y ait 300 personnes atteintes de cancer ou 3000, ça ne va pas changer ni la difficulté à produire l'œuvre, ni la beauté de l'œuvre en elle-même. Et au contraire, ça va donner un rayonnement à l'œuvre, vous voyez, qui va être bien supérieur. Pourtant, il peut être utile dans la production dans le cadre d'invention, de protéger une œuvre de ce qu'on appelle un brevet. Mais ça devrait être pour un temps assez limité, mais de façon à stimuler la recherche et à faire en sorte que soient amortis quand même les investissements qui ont été nécessaires pour générer telle ou telle œuvre qui a pu être très coûteuse. En général, les brevets sont d'une durée d'une vingtaine d'années. Bon. Alors, on se trouve confronté aujourd'hui, vous voyez, à un droit à la dérive dans les deux cas. Et qui n'est pas pour le coup moral. Vous voyez, on a un droit d'auteur qui permet, qui était censé garantir une juste rétribution du travail fourni par celui-ci, qui aurait dû être bref, et qui est maintenant fixé jusqu'à 50 ans au-delà de la mort du créateur. Quel sens ça a, hein, quand vous produisez quelque chose à 40 ans et que 50 ans après votre mort, on ne peut pas copier ou profiter directement, gracieusement de votre œuvre. C'est sûr que ce n'est pas ça qui va servir à faire vivre le bonhomme qui est mort depuis longtemps. Puis après, on a porté ça de 90 à 70 ans. On est passé de 50 ans avec cette convention de Berne dont je vous parlais en 1986, puis c'est apporté à 70 ans dans les années 90, qui assure en fait une rente de situation aux héritiers, qui eux ne sont pas pour grand-chose dans le succès de l'œuvre et dans le travail fourni pour que celle-ci ait pu voir le jour. Et ce, aux dépens des usagers. D'autre part, il n'est pas rare que les auteurs pratiquent souvent des prix qui sont complètement déraisonnables, qui vont bien au-delà de ce qui est nécessaire pour s'autofinancer et se rembourser de leur investissement et avoir un juste bénéfice. Car en soi, les succès de jadis ne devraient pas servir d'abord et essentiellement à financer les créations de demain. Toute œuvre en elle-même devrait trouver sa rentabilité. Sans compter, et ça on le voit tout à fait dans le monde, vous voyez, de l'édition, la part énorme qui revient aux sociétés de production et de diffusion. Et bien souvent, on a des prix exorbitants, c'est un peu comme pour l'essence, non pas tant pour de bonnes raisons, mais parce que ce qui devrait être uniquement des tuyaux, eh bien, se paye comme si c'était la source de l'œuvre. Hein, ceux qui sont censés diffuser vont se prendre plus que ceux qui en sont à l'origine. Et ça, on le voit dans le monde du bouquin, hein, Vous passez une année à produire un bouquin, vous le vendez dans une maison d'édition, et bien, par une maison d'édition. Et vous le vendez par une maison d'édition, vous allez toucher quelque chose comme. Vous allez toucher moins de 10% hein, du prix du livre. En général, ça va être plutôt entre 3 et 6% hein, du prix du livre. Le reste, ça va être l'éditeur, le diffuseur et un peu le libraire. Bon. Donc il y a une disproportion. Hein, parce que, l'auteur devrait, moralement, on pourrait penser qu'il touche au moins 50%. C'est quand même son bouquin. Bah non. Oui, il faut vraiment être discret, merci. Voilà, donc ça, c'est aussi un des paramètres qu'il faut avoir en tête. Bon, cela étant. On a une législation assez sévère, surtout en France, depuis la loi Dopi, sur le téléchargement illégal. Et en même temps, cette loi elle est visiblement peu applicable et peu appliquée, avec un certain consentement des sociétés elles-mêmes concernées par cette production. Dans la mesure où, lorsque vous téléchargez une œuvre, et vous la diffusez, eh bien, vous faites de la publicité pour cette œuvre. Et donc, on voit bien qu'il y a un intérêt pour certaines sociétés de ne pas vraiment vouloir porter plainte et faire appliquer le droit concernant le téléchargement illégal. Alors, je ne dis pas forcément que toute injustice conçue par le téléchargement est compensée par la plus-value qu'apporte la diffusion de l'œuvre, mais parfois c'est le cas. Et ça ajoute en plus, pour certains logiciels, qui sont objectivement piratables très facilement, et bien l'idée que ça va permettre à la société d'avoir un monopole, même par justement des versions acquises illégitimement. que si, tout, sur, les, si sur les trois quarts d'ordinateur, il n'y a qu'un unique logiciel pour un unique domaine qui est installé, les jeux de compatibilité vont faire que les autres vont être obligés d'acheter. Vous voyez, ce qu'ils n'auraient pas fait si ce n'était pas diffusé aussi facilement. Donc vous voyez, il y a plein de paramètres hein, qui fait que ce n'est pas évident de dire tout téléchargement est forcément immoral ou tout téléchargement ne pose aucun problème. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans l'idéal, on doit avoir des lois qui permettent de rétribuer les auteurs, d'abord, et pas d'abord les producteurs, de façon raisonnable pour qu'ils amortissent leur œuvre, et de façon aussi proportionnée à la qualité de leur œuvre. Voilà. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que, en soi, la copie d'une œuvre protégée par le droit, mais qui serait en même temps indisponible à la vente, ou vendue à un prix très déraisonnable, alors que c'était amorti de longue date, bah, ça ne constitue pas probablement une injustice que dans ce cas-là de télécharger cette œuvre. Car encore une fois, la vocation ultime d'une œuvre intellectuelle artistique, c'est que chacun puisse en profiter. Si on ne peut même plus légalement pouvoir se la procurer, et qu'elle était largement amortie, et qu'on peut, on peut l'avoir autrement par un téléchargement, eh bien, on ne voit pas en quoi c'est immoral, quand bien même certains diraient que c'est illégal. En revanche, le piratage systématique de toute nouveauté, ou le téléchargement disponible, ou le téléchargement d'œuvres disponibles par ailleurs à un juste prix, bah ça probablement que ça reste du vol. Parce que là, vous voyez, une nouveauté, elle appelle ton amorti. Et si ce qu'on télécharge autrement est aussi disponible à un juste prix, proportionné d'ailleurs à éventuellement son, son vieillissement et le fait qu'il est déjà, qu'elle est beaucoup moins rare, cette œuvre-là, parce qu'elle est répandue partout. Mais si un juste prix, bah, il est assez logique, du moment que l'auteur est encore en vie, qu'il puisse bénéficier, et encore une fois, des fruits de son travail. Voilà ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire beaucoup plus, à part qu'on peut souhaiter qu'il y ait un droit positif qui soit plus réaliste, déjà plus applicable, mieux appliqué et plus en phase avec cet enjeu de permettre une juste diffusion aisée de ces œuvres qui sont censées, non pas encore une fois perdre de la valeur par diffusion, mais au contraire en gagner. Et en même temps, eh bien, il faut qu'il y ait des lois qui permettent, dans le même temps, que les auteurs soient encouragés à produire et puissent vivre de leur travail quand celui-ci et de qualité. C'est un juste équilibre à trouver qui n'est probablement pas évident, et il appartient vraiment au droit positif de le déterminer, cet équilibre, mais force est de constater qu'aujourd'hui, bah, il n'est pas atteint, et en ce sens, on ne peut pas, à mon avis, purement et simplement dire que tout téléchargement illégal est forcément immoral, et on ne peut pas non plus dire, encore une fois, que tout téléchargement au prétexte qu'on ne pique rien à personne, eh bien, soit forcément moral pour les raisons que j'ai dit. J'en ai fini pour ce sujet.